13h38, minutes d'émission, on en jase. Ça roule sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Pascal CV, ton point par rapport au leadership de Trump était clair, valide et pertinent. Bravo, commentaire d'un auditeur. Wow, Pascal, tu m'épates. Tu parles très bien, tu es super bien informé. Félicitations, j'en aurais pris plus.
C'est juste
va falloir refaire ce débat-là.
J'ai juste une petite passion sur le leadership. Peu importe quelle personne est à la tête d'une équipe, le leadership bienveillant, le leadership directif, j'adore ça, moi.
Puis là, il va falloir que je commence à m'astiner avec toi parce que crime, le monde aime ça quand on débat. Tu dis niaiserie, c'est vrai. Non, c'est pas vrai.
Ouais, là, tu peux être démagogue, mais tu vas trouver ça plate, ça te ressemble pas.
Hey, Pascal, il n'y a pas juste eu cet incident de violence-là aux États-Unis, c'est-à-dire l'assassinat de Charlie Kirk. Il s'est passé quelque chose d'autre dans le métro.
Oui, là, je suis un peu subjuguée. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un montage.
Oui.
Puis après ça, ben j'ai vu ça, puis j'ai vu un assassinat sous mes yeux, filmé.
En direct.
En direct. C'est une vidéo très choquante du meurtre à Charlotte qui a été révélée. C'est une jeune réfugiée ukrainienne qui est arrivée ici, qui fuyait en fait la guerre en Ukraine avec la Russie il y a quelques années. Elle est arrivée avec sa famille, puis c'est des images à glacer le sang. Ça montre en fait cette réfugiée-là qui est assise dans le métro à Charlotte et qui se fait attaquer par un pur kidam, un inconnu, quelqu'un qu'elle connaît pas, qui était assis derrière elle et qui l'attaque à coups de couteau à la gorge. Elle s'appelle Irina Zatrutska, j'espère que je le dis bien, elle a 23 ans et elle est sur la ligne bleue, justement en Caroline du Nord, le soir du 22 août, le moment où elle se fait attaquer. Et les images ont commencé à faire le tour du web dans les dernières heures. Puis là, ça amène encore plus de tensions aux États-Unis parce que ça divise aussi et ça ramène les idées d'immigration, la façon dont on encadre la santé mentale. On revient aussi sur la justice parce que là, il y a la peine de mort, la chaise électrique. Je te le jure, les États-Unis sont en feu en ce moment. Et quand je parlais d'amenuiser les tensions,
en feu,
c'est que là,
pour les bonnes raisons.
Non, c'est super difficile. Puis, tu sais, souvent, je travaille des cas d'ici, de la ville de Québec, de ci et de ça. Ça reste que l'humain, là. On en est tous.
Oui, bien, l'humain, est tous humains. Aux États-Unis, l'humain au Québec, c'est l'humain.
Exact. Puis, ce qui est le plus, en ce moment, discuté, c'est pourquoi personne n'a réagi. Mm-hmm. La jeune fille est entourée d'au moins 4 personnes autour d'elle. Son tueur est en arrière, OK? Il a eu le temps de mettre fin au jour de la jeune fille, de partir, d'attendre que le métro s'arrête, de sortir. Et il n'y a personne qui a réagi. Personne ne l'a intercepté, cet homme-là. Personne est venu en aide à la jeune fille, à part un homme, à un moment après quelques secondes. Il a enlevé sa veste puis a essayé de l'aider, mais elle est décédée sur le coup. Puis je me suis dit, Colin, est-ce qu'on observe un problème de société là, ou un problème individuel face aux gens qui sont assis dans le wagon? Je me suis dit, à qui je pourrais poser la question? Bien, j'ai trouvé. J'ai posé la question à Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, avec qui on jase souvent ici à Boulevard 102.1. Puis voici la réponse à la question. C'est un problème de société ou individuel?
En fait, c'est un sujet qui est extrêmement délicat et je crois qu'on est tous touchés. Après avoir vu ces images-là qui ont tourné quand même pas mal sur la toile et de voir à quel point cette violence gratuite est vraiment quelque chose d'effrayant. Donc d'abord, toutes mes sympathies à la famille, à ses proches, ainsi que les gens qui nous écoutent et qui ont été touchés en fait par ce drame en question. Je crois toutefois que personne ne sait ce qu'il aurait fait s'il avait été à la place des gens qui étaient présents et qui ont assisté à ce drame. C'est pas nécessairement de la couardise, c'est une réaction qui est totalement normale. À 20 ans, probablement qu'il y aura plus de chances, il y aurait eu plus de chances que je bondisse et que je tente de protéger une personne qui se fait agresser. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, comme père de famille, je ne sais pas ce que je ferais et je crois que ça devrait nous inviter à être humbles et à éviter peut-être de juger les personnes qui étaient présentes et qui ont assisté à cette triste scène.
C'est vraiment intéressant parce qu'on nous ramène sur se protéger soi-même avant de protéger les autres.
Ou encore de ne pas savoir quoi faire face à tout ça. Est-ce que, d'abord, justement, on a des questions à se poser sur ce qu'on fait, nous, là-dedans. Mm-hmm. Mais encore là, j'ai parlé avec Joël Monzé de si on veut réagir, on sait-tu comment on réagirait aussi? Mettons qu'on veut vraiment réagir. Ça, c'est clair dans notre tête, ça se passe devant nous. Comment est-ce qu'on réagit? Ça non plus, là, c'est pas totalement clair.
En fait, face à une menace qui est clairement identifiée, nous réagissons un peu comme une souris. On est génétiquement programmé, conditionné pour réagir de la sorte, dans le sens qu'une souris ne doit pas aller à l'école pour savoir qu'un chat, c'est dangereux. Et si elle est confrontée à un chat, sa première réaction, ça va être de figer. Elle va sidérer. Elle va essayer de faire la mort si le chat est en train de jouer avec elle. Et peut-être qu'éventuellement, si elle a une petite opportunité pour s'enfuir, elle va tenter de s'enfuir. Donc, dans une situation où il y a un danger sujet extrême comme celui dont on parle, ben, la réaction des êtres humains qui voient la scène, elle est tout à fait normale. C'est-à-dire qu'ils, même s'ils le voulaient, en fait, probablement, qu'ils auraient beaucoup de difficultés à oser, en fait, aller de l'avant et faire en sorte que d'intervenir dans une situation aussi dramatique que cela. Il y a peut-être aussi un petit côté pensée magique, dans le sens que on peut avoir une réaction qui se dit, bon, ben, si l'agresseur, je ne le regarde pas, je ne le vois pas, lui ne va pas me voir. Et c'est peut-être une manière, en fait, de tenter d'échapper, en fait, à l'idée qu'on pourrait à notre tour subir les conséquences d'actes d'une violence incroyable.
C'est tellement intéressant, le parallèle avec la souris. Ça explique pourquoi on fige dans des situations comme ça.
On dit souvent qu'on peut figer, fuir ou foncer. C'est les trois réactions dans ce genre de situation-là. Puis il y a des gens qui nous écrivent pendant qu'on jase, Jeff, puis qui disent « Hey, c'est terrorisant. Tu vois la panique dans ses yeux. Elle a trois coups de couteau dans le cou, puis elle ne comprend pas ce qui se passe, puis elle est en train de mourir. » Puis ça, on vous jure, là, c'est arrivé. Là, c'est partout. Oui. C'est d'assaut sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, tu te demandes, est-ce qu'on est rendu dans une société qui est un petit peu plus individualiste, où on est-tu saturé de ce genre de choses-là? Fait que quand ça arrive, là, en vrai, notre cerveau ne fait pas la corrélation avec le drame actuel qui se déroule puis comment on devrait agir.
On pourrait se demander également si ça ne reflète pas aussi quelque part un côté individualiste de notre société. Est-ce qu'on est aussi... face à une violence tellement omniprésente, surtout aux États-Unis, on le voit dans tellement d'épisodes dramatiques ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'on est saturé de la violence que l'on peut voir autour de nous? Est-ce qu'on se sent complètement dépassé par éventuellement cette société qui est en train de se désagréger? Et ou est-ce qu'on voudrait à la rigueur une augmentation du nombre de systèmes de contrôle, que ce soit par la police? On entend de plus en plus la demande que l'armée soit dans la rue. Il n'y a pas juste Monsieur Trump qui a réagi avec la guerre nationale. Ce sont des questions qui se posent aussi régulièrement en Europe, dans des quartiers qui sont de plus en plus incontrôlables. Et donc, en fait, la peur fait en sorte que, à force d'en entendre parler aussi dans les médias, la peur fait en sorte qu'on perd un peu notre part de pouvoir et on perd un peu notre capacité à réagir et avoir une solidarité envers autrui. Pas nécessairement parce que la personne n'est pas bonne ou parce que vous et moi, on n'est pas bons. C'est juste que c'est un processus normal et l'idée, c'est peut-être, en tant que société, de regarder qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles, de quelle manière est-ce qu'on peut prévenir cette violence abusive, de quelle manière est-ce qu'on peut faire en sorte que quelqu'un qui a, par exemple, un trouble de santé mentale sévère qui peut l'amener à avoir des crises paranoïaques et ces crises pouvant l'amener éventuellement à mettre fin à la vie de quelqu'un qui ne lui a absolument rien fait, peut-être que notre société devrait repenser la manière dont on fait les interventions. C'est bien beau d'utiliser des médicaments pour conjuguer ou conjuguler certains symptômes problématiques, mais je crois qu'il faut aller bien au-delà. Qu'est-ce qui amène en fait ces gens à perdre le contact avec eux-mêmes? Et s'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, qu'est-ce que notre société peut mettre en place pour prévenir des situations comme celle-là? Et peut-être que le fait de reconsidérer la création ou l'élargissement des règles d'internement, comme on avait avant dans des asiles psychiatriques, pourrait peut-être se faire dans des conditions les plus humaines possibles, pourrait peut-être être reconsidéré à nouveau pour pouvoir préserver la vie des gens qui n'ont rien demandé et qui se font éventuellement agresser pour des raisons qui ne les regardent pas ou qui n'ont même pas de raison. C'est ce qui est encore pire.
Tu vois, c'est une pure inconnue que cet homme-là a attaqué de façon gratuite dans le métro, qui a enlevé la vie à cette jeune fille-là. Puis c'est intéressant de revenir sur l'implication des Robert Gifford de ce monde, l'asile psychiatrique et tout ça. Est-ce qu'on a un retour de ce type d'établissement-là qui devrait être intéressant à mijoter, du moins, avec, comme il dit, plein de conditions intéressantes puis beaucoup d'humanité? Mais la question se pose.
Vraiment, merci beaucoup, Pascal, pour cet excellent dossier. Puis je pense que ça va faire en sorte qu'on va juger un peu moins également la réaction des gens qui ont figé. Donc ça, moi, il y a une tonne de préjugés qui viennent de tomber grâce à tes extraits. Merci beaucoup de m'ouvrir l'esprit ainsi, d'ouvrir l'esprit de nos auditeurs. On s'en va rejoindre pour terminer l'émission le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est au bout du fil. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Vous-même?
Ça va super bien. Alors, Parti conservateur, votre sondage concernant les véhicules à essence. Et Éric, bien, ce qu'on comprend, c'est que les gens tiennent à leurs véhicules à essence au Québec.
63% des gens pensent que c'est pas au gouvernement à décider, c'est à eux s'ils doivent ou non acheter un véhicule à essence, hybride ou électrique. Il y a juste 22 % des Québécois qui pensent qu'il faut interdire la vente des véhicules à essence en 2035, comme l'a adopté le gouvernement Legault. Puis il y en a même moins 15 % qui sont d'accord avec le Parti québécois qu'il faudrait même interdire les véhicules à essence encore plus tôt, soit en 2030, comme le propose Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, il y a une forte majorité, là, 63 % des Québécois, qui est contre ce que 100 % des députés ont adopté à l'Assemblée nationale. C'est fou, là. Il n'y a pas un député sur 125 qui représente l'opinion de 63 % des Québécois.
Éric, également, parmi là, ceci, là, il y a eu la nomination hier de Bernard Drainville à titre de ministre de l'Environnement. François Legault lui a donné la mission d'accélérer les grands projets. Est-ce que tu crois que la prochaine mission qui s'en vient, c'est de justement repousser cet échéancier de véhicules électriques?
Bien, il faut. Et c'est pour ça, ce matin, j'étais chez un concessionnaire automobile ici à Québec, justement, pour parler de ça, pour inviter Bernard Drainville à écouter la population, à voler l'idée conservatrice là, de mon char, mon choix. Puis il faut qu'ils le fassent rapidement parce que les concessionnaires automobiles, là, ça prend au moins 3 mois pour gérer leur stock là, dans leur parc. Il faut que les gens sachent, là, à partir du 1er janvier, les quotas pour les voitures électriques vont passer de 20 à 32 % au Québec. Puis 20 % au Québec, là, ils voulaient mettre ça au fédéral à partir du 1er janvier. Puis là, le gouvernement Carney, comme
ouais, c'est ça, Mark Carney reculé là, sur cette promesse-là.
Ils ont reculé. Fait qu'au Canada anglais, il n'y a plus de quotas. Là. Ça n'existe plus. Là. Et au Québec, on est déjà à 20. Puis pour être à 20, il a fallu qu'au mois de juillet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui était ministre il y a 2 mois, Benoît Charrette, annonce en juillet qu'il changeait les règles du jeu pour inclure les véhicules hybrides dans le calcul des véhicules électriques pour arriver à 20 %. Et 32 %, c'est impossible. À part Tesla, il n'y a aucun constructeur automobile qui est capable de rencontrer les quotas qui vont être imposés à partir de janvier. Donc, c'est pour ça que c'est important que le ministre Drainville bouge dans les prochains jours. Puis moi, j'ai confiance. Très honnêtement, là, Bernard Drainville, c'est un gars qui a pas mal plus les deux pieds à terre. Rappelez-vous, en campagne électorale, il est même devenu célèbre parce qu'il avait dit « lâchez-moi avec les GES ». Donc, j'ai confiance qu'il va reculer sur cet enjeu-là. C'est trop important là, parce que les pénalités pour chaque voiture vendue pour un constructeur qui excède les quotas, c'est 20 000 $ par char. Puis pensez pas que les concessionnaires automobiles ou les constructeurs automobiles vont perdre 20 000 $ vendre un char au Québec. Là. C'est nous autres, comme consommateurs, qui allons nous retrouver avec la facture. Là. C'est déjà qu'on est les derniers au Canada à payer une taxe carbone inutile. On paye 20, 25 cents de plus qu'en Ontario le litre d'essence. C'est pas vrai qu'on va être les dindons de la face, mais on va payer nos chars 20 000 $ de plus, là.
Non, parce que là, le coût de la vie a énormément explosé. Éric, je t'ai entendu parler du Parti québécois qui voulait devancer justement cet échéancier-là. Oui. Capitale nationale, on se le cache pas, c'est un terreau fertile pour le Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'on s'attaque au PQ en sachant que la CAQ est morte ou on se dit, avec le nouveau Conseil des ministres, peut-être que la CAQ peut revenir dans l'échiquier?
Écoute, l'élection est dans un an. C'est un an en politique, c'est 2 éternités. Là. Ça peut bouger bien des fois, là. mais c'est sûr que présentement, tu as raison, là, dans la région de Québec, c'est une bataille entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. Mais tout ça peut beaucoup modifier, là, parce que le Parti québécois, honnêtement, il n'est pas très au diapason de ce qui se passe dans la région de Québec. Là. C'est un parti qui est en faveur du tramway alors que la population est contre. C'est un parti qui est contre le troisième lien alors que la population est pour. Fait que, puis j'ai l'impression que la région de Québec aussi, là, c'est une des régions où on est les moins friands de la tenue d'un troisième référendum. Donc, j'ai l'impression que plus on va approcher des élections, plus les enjeux vont s'éclaircir. Puis pour ce qui est de la CAQ, tu as raison de le souligner, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Là. Monsieur Legault qui veut faire un virage à droite, est-ce que Monsieur Legault va être encore là? C'est la première question qu'il faut se poser.
Fait que à cet effet-là, pas de vice-première ministre, tu vois-tu ça comme un départ futur pour François Legault?
Ben écoute, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre hier, effectivement, là, qu'il nomme pas un vice-premier ministre. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne à la CAQ qui est assez bon pour le remplacer? Je ne sais pas. Mais c'est un drôle de signal qu'il a effectivement envoyé. Mais il a fait un discours hier, là. Il faut que je le dise, somme toute. Tu sais, c'est un discours qui était assez conservateur, ce qu'il a dit hier. Il y a bien des choses qu'il a dites avec lesquelles moi je suis d'accord. Mais le seul problème avec François Legault, c'est que tu sais, quand il me dit qu'il veut réduire le nombre de fonctionnaires, il veut éliminer le déficit, c'est parce qu'il a été élu en nous disant ça, puis il a fait le contraire une fois arrivé au gouvernement. Même chose avec le privé en santé, il nous promettait 2 hôpitaux privés, il a reculé. Il nous promettait d'exploiter notre gaz naturel, il a reculé. Puis le problème, c'est qu'on le croit plus. Puis en politique, quand t'es pas cru, t'es cuit. Et c'est ça qui est en train d'arriver à François Legault. J'ai l'impression que même s'il dit des choses avec lesquelles on est d'accord, j'ai l'impression que les gens entendent juste le mot mensonge dans le fond de leur tête et ça risque d'être ce qui va le miner. Soit étant dit, moi, là, je suis là pour être constructif, être positif. Moi, si François Legault veut nous voler nos idées, mais moi, je veux l'aider. Là. Moi, je suis d'accord que s'il veut exploiter nos ressources naturelles, s'il veut réduire la fonction publique, s'il veut éliminer le déficit, s'il veut additionner le privé en santé, moi, je vais être là pour l'aider politiquement.
Éric, en terminant et en 20 secondes, le chrono passe. C'est comme dans un débat des chefs, je te prépare. Le troisième lien, Ciré Vagnan 2 par Pierre Bertrand, le maire de Québec, s'oppose justement à ce projet. Toi, tu es où là-dessus?
Bien, nous autres, on pense qu'il faut qu'il passe par l'île d'Orléans. J'ai toujours dit ça. C'est le projet qui est dans le carton du ministère depuis plus d'un demi-siècle, du ministère des Transports. C'est le projet qui coûte le moins cher. C'est le projet où on commence déjà à faire un pont entre la rive nord puis l'île d'Orléans. On a juste à continuer par le chemin Prévost jusqu'à la rive sud. Pour nous, il y a une seule place où ça doit passer. Puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle hier. Là. Pour la région de Québec, il y avait quand même des bonnes nouvelles dans le remaniement. On a Bernard Drinville qui est à l'environnement. Je pense qu'il connaît bien la réalité de la région, puis il est très favorable au troisième lien. Puis il va pas mettre des bâtons dans les roues au projet au niveau environnemental. On a un ministre des Transports qui vient de la région de Québec. Ça va être Jonathan Julien. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis on a un ministre de la Capitale-Nationale qui est le député de Montmorency, qui est dans la région de Québec, où le troisième lien arriverait. Notre troisième lien à nous autres, il arriverait dans son comté. Fait que je pense qu'on a l'équipe là, présentement pour choisir le meilleur lien puis aller de l'avant avec le troisième lien au plus sacré.
Éric Duhem, merci beaucoup pour ta collaboration et au plaisir de se reparler bientôt.
C'est un plaisir. Ciao.
Salut Éric. Alors c'était Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Pascal Cévin, on a réussi notre mission. On a rentré 3 entrevues, 3 dossiers dans une émission de 2 heures. T'es-tu contente?
C'est fait, mesdames
c'est
et
fait.
Messieurs.
C'est fait. Merci pour ta collaboration. On se parle demain?
Oui, absolument.
Excellent. Bonne journée sur les ondes de Boulevard 101. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant.